Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 9 septembre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner pendant une heure en français. Au sommaire de cette émission, le journal, les sports et comme chaque mardi, le journal de la semaine politique. Et d'abord les titres du journal de ce mardi. L'Assemblée nationale en France n'a pas accordé sa confiance au gouvernement de François Bayrou avec 364 voix contre et 194 voix pour. Le Premier ministre doit donc démissionner, ce qu'il fera ce mardi. Le ministre israélien des Affaires étrangères a annoncé hier la mort d'au moins 6 personnes dans une attaque à l'arme à feu à Jérusalem-Est. Les Nations Unies demandent l'ouverture d'une enquête après la mort de 17 personnes lors de manifestations contre la décision gouvernementale de bloquer l'accès aux réseaux sociaux au Népal. Et on passe au journal de ce mardi. L'Assemblée nationale en France n'a pas accordé sa confiance au gouvernement de François Bayrou avec 364 voix contre et 194 voix pour. Le Premier ministre s'est exprimé pendant environ 45 minutes, engageant la responsabilité de son gouvernement.
À l'inexorable marée de dettes qui la submerge, en 4 années, et c'est un délai raisonnable dans la vie d'un pays et de ses habitants, ce n'est pas que nous n'aurons plus de dettes, mais notre dette n'augmentera plus. Et voilà le plan. Atteindre en 2029 le seuil de 3% des déficits publics annuels, seuil à partir duquel la dette n'augmente plus.
Le cabinet du président français Emmanuel Macron a annoncé qu'il nommerait un successeur dans les prochains jours. Les partis d'opposition réclament de nouvelles élections. Les précisions d'Aurélien Devernois pour Radio France Internationale.
Il a débuté son discours la voix enrouée, essoufflée, comme rattrapée par un destin auquel il ne voulait pas croire. Puis François Bayrou s'est fait plus mordant, visant des oppositions n'ayant selon lui que de fausses solutions à proposer et incapable de redresser la barre du bateau France.
Le risque pour la France demeurera entier parce que, mesdames et messieurs les députés, vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais vous n'avez pas le pouvoir d'effacer le réel.
Mais dans les rangs de l'Assemblée, plus grand monde n'était disposé à recevoir des leçons du professeur Bayrou, ancien enseignant en lettres, à l'image du patron des députés socialistes, Boris Vallaud.
Ce vote auquel vous vous soumettez n'est pas un acte de courage, c'est une dérobade. Face à la responsabilité, aujourd'hui, vous vous effacez.
Pire, le Premier ministre s'est vu sévèrement critiqué par Laurent Wauquiez, président du groupe Les Républicains, ses alliés pourtant au gouvernement.
Si vous aviez écouté La France qui travaille, vous auriez aujourd'hui le soutien unanime des députés de la droite républicaine. Tel n'a pas été le cas.
La sentence était donc irrévocable et prononcée avec une certaine délectation par la chef de file du Rassemblement national, Marine Le Pen.
Ce moment marque la fin de l'agonie d'un gouvernement fantôme.
Injuste, forcément, regrette-t-on dans les rangs du Modem, le parti de François Bayrou, mais chacun semblait s'être fait une raison. La balle est désormais dans le camp d'Emmanuel Macron, à qui le Premier ministre remettra sa démission.
Ce mardi donc, le ministre israélien des Affaires étrangères a annoncé hier la mort d'au moins 6 personnes dans une attaque à l'arme à feu à Jérusalem-Est. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est rendu sur le lieu de l'attentat.
We are now pursuing and surrounding the villages from which the terrorists came, and we will track down everyone who assisted them and those who sent them. We will take even harsher measures. These murders and attacks on all fronts do not weaken us. They only strengthen our determination to accomplish the missions we have set for ourselves in Gaza, in Judea and Samaria, everywhere.
Les Nations Unies demandent l'ouverture d'une enquête après la mort de 17 personnes lors de manifestations contre la décision gouvernementale de bloquer l'accès aux réseaux sociaux au Népal. La police a fait usage de balles en caoutchouc, de gaz lacrymogène, de canons à eau et de matraques lorsqu'une foule nombreuse s'est précipitée vers le Parlement défiant un barrage policier. Ces manifestations font suite aux restrictions gouvernementales d'accès à plusieurs plateformes de réseaux sociaux imposées après que des entreprises n'aient pas respecté les exigences d'enregistrement. Le gouvernement affirme que des utilisateurs de réseaux sociaux munis de fausses identités diffusent des discours de haine et de fausses informations et commettent des fraudes en ligne. En Australie, une commission d'enquête du Sénat fédéral sur la prolifération d'algues nuisibles qui touchent l'Australie méridionale débutera ses audiences publiques ce mardi après avoir reçu 114 soumissions. L'enquête devrait recueillir des témoignages sur les impacts économiques, environnementaux et culturels de cette prolifération d'algues, la plus grave de l'histoire de l'État. La sénatrice des Verts, Sarah Hanson-Young, préside la commission. Elle a déjà décrit ses conséquences sur SBS News.
It is just like a dead zone. It's like a bomb has gone off. Everything is dead. Everything is decimated.
Une étude plutôt de l'Institut australien de la santé et du bien-être suggère une légère baisse du taux de suicide chez les vétérans des forces armées australiennes. De nouvelles données publiées ce mardi indiquent que 73 vétérans et militaires se sont suicidés en 2023, portant le total à 1840 depuis le début du suivi en 1997. Ces données interviennent un an après la publication du rapport final de la Commission royale sur la défense et le suicide des vétérans qui contenait plus de 120 recommandations. La semaine dernière, le ministre des Anciens Combattants, Matt Keogh, a déclaré au Parlement que le gouvernement avait mis en œuvre 9 recommandations de la Commission royale. Le député libéral Alex Hawke a rejeté les allégations de sa collègue Jacinta Price, selon lesquels il aurait réprimandé son équipe suite aux propos de Mme Price sur l'immigration et la communauté indo-australienne. S'exprimant sur Sky News, Alex Hawke, ancien ministre de l'immigration et des affaires multiculturelles, a déclaré avoir parlé à Mme Price et avoir appelé directement son bureau, mais être resté calme pendant la conversation. Alex Hawke estime que Mme Price n'a pas l'intention d'offenser la communauté indo-australienne, mais affirme avoir reçu des messages de membres du Parti libéral, notamment de la communauté d'Asie du Sud-Est, exprimant leurs inquiétudes concernant les propos de Mme Price. La chef de l'opposition, Susan Lee, a réitéré le soutien de la coalition à la communauté indo-australienne, tout en rejetant les propos tenus par une sénatrice libérale lors des élections fédérales concernant les espions chinois. Madame Lee a rencontré hier des dirigeants de la communauté indienne à Melbourne et elle a déclaré sur SBS qu'elle comprend les valeurs importantes de la migration vers l'Australie.
We value incredibly every migrant community that comes to this country. Because they've chosen to come here, and the contribution they make makes Australia a better place and brings value and livelihoods and happiness.
Le premier de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a déclaré qu'il n'annoncerait pas de mesures immédiates suite à l'attaque mortelle de requins survenue à Dee sur les plages du nord de Sydney. Il a rendu hommage à Mercury Silakis qui a été mutilé par un grand requin samedi à la veille de la fête des pères et qui est décédé sur place après avoir été sorti de l'eau. L'incident a attiré l'attention sur un essai de retrait des filets anti-requins de certaines plages de Nouvelle-Galles du Sud. Chris Minns a déclaré que la réponse du gouvernement s'appuiera sur les preuves de l'incident. De nouvelles plages ont été fermées hier lundi suite à la détection d'un grand requin blanc. Le surfeur Martin Arisuno a déclaré sur Channel 10 que de nombreux membres de la communauté du surf étaient encore en deuil.
As everyone else is in the community, pretty shocked. the news came pretty quick, and the surfing community is pretty small here, so within an hour we knew what was going on, but we just couldn't process it.
La ministre des Australiens autochtones a visité le camp Sovereignty, un site sacré aborigène, attaqué la semaine dernière par des manifestants anti-immigration, dont des néo-nazis notoires. Malandiri McCarthy a déclaré avoir été reconnaissante d'avoir pu rejoindre le camp le week-end dernier, où les habitants restent encore sous le choc et en état d'alerte après l'attaque perpétrée par un groupe d'hommes vêtus de noir. La ministre a déclaré sur ABC que cet incident rappelait le passé colonial de l'Australie et soulignait l'importance de truth-telling.
Many, many stories have happened across Australia around whether they're massacres, whether they're direct attacks on First Nations people and their families. So many of us can tell our stories. I can tell the story from the Gulf region and what happened to the Anu and Gadwa people, the Gadwa people in particular. So those stories are very real. They live on in the memories of our elders, and they're passed on to the next generation.
La meurtrière Erin Patterson a été condamnée à la réclusion à perpétuité pour les meurtres de Don et Gail Patterson et de Heather Wilkinson, ainsi que pour la tentative de meurtre sur la personne de Ian Wilkinson. Cette condamnation survient plus de 2 ans après qu'elle a servi un repas à base d'aminite phalloïde, tuant 3 proches de son mari. Erin Patterson est restée impassible lorsque le juge Beal a qualifié ses crimes de, je cite, pire.
Fixing a non-parole period is not to undervalue the horrendous nature of your offending. Your total effective sentence will be life imprisonment, and the period during which you will be ineligible for parole will be a very substantial one.
L'Australie rejoint cette semaine 17 autres pays et territoires des îles Salomon pour participer au forum annuel des îles du Pacifique, où le changement climatique devrait figurer en tête de l'ordre du jour. Le premier ministre des îles Salomon, Jeremiah Manele, avait auparavant exclu la Chine, Taïwan et les États-Unis du forum afin d'éviter une escalade des tensions géopolitiques. Mercredi demain, les dirigeants devraient signer un traité portant création du Fonds pour la résilience du Pacifique afin de lutter contre le changement climatique. Le premier ministre australien, Anthony Albanese, devrait signer un pacte visant à renforcer les liens économiques et sécuritaires. La candidature de l'Australie à l'organisation de la COP31, la conférence mondiale sur le climat l'année prochaine, sera également à l'ordre du jour. Le premier ministre des îles Salomon, Jeremiah Manele, a profité de son discours d'ouverture pour exhorter les pays du Pacifique à agir de toute urgence afin de protéger la santé des océans.
As custodians of 20% of the planet's surface, we have a moral obligation to protect the lifeblood of the planetary system. As stewards of the ocean, let us respond decisively.
On passe à la météo pour ce mardi en Australie, à Perth. Il fera 18 degrés, Adélaïde 17, Melbourne 18, Hobart 12, Canberra 20, Sydney 23, Brisbane 28, Darwin 34 et à Alice Springs maximale de 28 degrés. Fin du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. h 17 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français et on passe maintenant au journal des sports et vous êtes en compagnie de Christophe Mallet.
« Journal des sports, on débute avec du football. La France affronte l'Islande ce soir en match de qualification pour la Coupe du Monde sous une petite polémique avec le Paris Saint-Germain lors du France-Ukraine avec la blessure de deux joueurs dont Ousmane Dembélé, le joueur phare du Paris Saint-Germain, ce qui n'a pas plu du tout au staff du club parisien. On écoute le point sur cette affaire avec Antoine Grenier.
Malicieux, le hasard a voulu que le Paris Saint-Germain accueille les Bleus au Parc des Princes au moment où la polémique agite les deux camps. Après la mise en cause par les dirigeants parisiens de sa gestion du cas Dembélé, arrivé fatigué en sélection et entré en jeu quand même, Didier Deschamps a répondu « Pas question de laisser les clubs décider de qui il met sur le terrain ».
Et après j'ai le Bayern qui m'appelle, le Real, et je vous fais jouer à vous autrement. Et c'est moi qui prends les décisions, j'ai mon staff, c'est ma responsabilité, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est là où les intérêts divergent, mais je tiens toujours compte de que les éléments qu'on peut avoir et surtout le ressenti des joueurs.
Un ressenti évoqué également par le vice-capitaine Aurélien Tchouaméni.
À la fin de la journée, c'est le joueur qui donne aussi ses sensations. S'il estime que c'est compliqué pour lui de jouer parce que y a un risque très très élevé, le coach il a toujours été conciliant et voilà, il est pas bête. Il sait que quand c'est le cas, il faut le faire. Après, je pense qu'en tout cas pour nous à Madrid, il y a toujours une bonne communication entre les deux parties.
Tchouaméni conciliant, tandis que Didier Deschamps, malgré un certain agacement, a tenu à rappeler que les Bleus et le Paris Saint-Germain n'étaient pas des adversaires.
Voilà, donc Antoine Grenier qui nous parlait d'ailleurs de Didier Deschamps. Didier Deschamps, on l'écoute, son commentaire sur cette polémique avec le PSG.
Nous avons fait comme à chaque fois les choses de manière progressive avec, je le répète toujours, quel que soit le joueur, le ressenti du joueur. Et après, c'est moi qui ai des décisions à prendre. Malheureusement, que ce soit Désiré et Ousmane se sont blessés, je suis triste pour eux, bien évidemment. Et l'équipe de France perd deux joueurs importants. Maintenant, le PSG, c'est pas notre adversaire, hein, et ça l'a jamais été. Notre adversaire, c'est l'Islande. Après, ça laisse certainement libre à chacun de pouvoir d'en communiquer. Oui, il y a des échanges qui peuvent être d'un côté et de l'autre aussi. Nous, on fait les choses toujours de manière très professionnelle, consciencieuse, et le risque zéro, il n'existe pas pour des joueurs qui sont sur le terrain. Ceux qui sont sur le banc, là, évidemment, ils vont pas se blesser, quoi.
Voilà, donc Didier Deschamps, on continue avec d'ailleurs Didier Deschamps, c'est sa dernière rentrée internationale, 14 saisons à la tête des Bleus, il tirera sa révérence après la Coupe du Monde de l'été prochain, été de l'hémisphère nord bien entendu, la Coupe du Monde au Canada, aux États-Unis et au Mexique, mais ça n'a pas l'air de toucher le sélectionneur français.
Ça n'a aucune importance pour moi que ça soit la première, l'avant-dernière, ça aurait pu être la dernière, les saisons précédentes pour X raisons aussi, de par ce qui aurait pu se passer moins bien certainement, décision de mon président. Voilà, je suis fixé sur l'objectif qui est le nôtre. C'est 6 matchs et l'objectif de se qualifier, quoi. Ça me traverse même pas l'esprit de me dire, ah ben, en septembre, l'année prochaine, non, je serai pas là. Ça, c'est une certitude. Et je serai ailleurs. Et ailleurs, c'est ailleurs. Mais je sais pas où.
Voilà, Didier Deschamps, on le sait, à demi-mot, un certain Zinedine Zidane devrait reprendre l'équipe de France derrière Didier Deschamps, avec quand même un très beau palmarès pour le sélectionneur français. En espérant que la qualification ce soir se jouera donc face à l'Islande, match donc pour cette qualification de cette Coupe du Monde. Et pour conclure sur ce match international, on écoute Hugo Ekitike. C'était un ancien joueur du Paris Saint-Germain, vendu à Liverpool, parti pas sous les meilleurs augures, vraiment un échec au niveau du Paris Saint-Germain. Retour dans la capitale française à Paris. Donc pour Hugo Ekitike, il est plutôt content.
Ça me tient à cœur, forcément, parce que je pense que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été vu quand j'étais à Paris, ça n'a pas été forcément une vraie vision de ma personne ou même du joueur que j'étais. J'étais dans un immense club avec sans doute les plus gros stars du football que le football a connu. Donc forcément, ça a été un passage compliqué, mais nécessaire. Aujourd'hui, je suis à Liverpool, je suis regardé. Les gens me voient d'une autre manière, mais voilà, revenir ici en France avec l'équipe de France et pouvoir montrer le joueur que je suis et aussi ma personne, c'est un plaisir et voilà, j'espère que ça va continuer.
C'était Hugo Ekitike, donc le joueur de Liverpool, l'international français également. Un point avec le Mercato, les derniers échanges que le Mercato est conclu maintenant, les derniers joueurs, les derniers achats, les dernières ventes de joueurs avec Christophe Desramzian.
La riche première ligue forte de droits télé, bien plus élevée que pour tous les autres championnats et qui ne se prive pas de le montrer, à l'instar du tenant du titre Liverpool, qui va alléger son compte en banque de 150 millions d'euros pour s'offrir les services de l'attaquant suédois Alexander Isak, parti de Newcastle. C'est le nouveau transfert record outre-Manche. Il devrait être suivi officiellement dans les heures qui viennent, mais sans doute à moindre coût, de celui de Gianluigi Donnarumma à Manchester City. Le gardien italien, on le sait, poussé vers la sortie par le PSG. De son côté, le Milan AC est bien le nouvel employeur d'Adrien Rabiot, indésirable à Marseille après son altercation avec un coéquipier. À la place, l'OM récupère à son tour un champion du monde français 2018, Benjamin Pavard, ex-Inter Milan, comme Monaco, Lille et Lens l'avaient fait avec Paul Pogba, Olivier Giroud et Florian Thauvin.
Christophe Desramzian. Allez, on va parler de cyclisme maintenant. C'était la 15e étape de la Vuelta. Ça se courait dimanche soir. Hier, c'était une journée de repos. Donc, on entame la dernière semaine de cette Vuelta. Le leader, c'est toujours Jonas Vingegaard devant Joao Almeida avec 48 secondes d'avance donc pour le Danois. L'Australien, Jai Hindley, est quatrième. Il est à 3 minutes du leader, mais il n'est qu'à une trentaine de secondes du podium qui est pour l'instant tenu la troisième place par Tom Pidcock. Donc Jai Hindley pourrait faire quelque chose de très très bien cette semaine. Ce sera le coureur à suivre pour nous. Le vainqueur de la 15e étape dimanche, c'était Mats Pettersson, sa 14e victoire de la saison. C'est énorme. On écoute Mats Pettersson.
The team worked the whole day. Five guys in the first group and yeah, when the two guys they went away on the second KOM, they were really strong and got a lot of time. So yeah, in the end it makes it even nicer to win when everyone is looking at us and everyone knew our plan. And still we succeed with a victory that's absolutely incredible.
Mads Pettersson, donc le Danois, qui remporte la 15e étape de la Vuelta. Il est toujours leader du maillot vert de meilleur sprinter. Allez, un dernier mot de sport pour parler de tennis, bien entendu. Carlos Alcaraz remporte l'US Open masculin devant Yannick Sinner. Une finale en 4-7. On écoute l'Espagnol Carlos Alcaraz.
C'est mon deuxième, mais ça reste un rêve qui devient réalité. Ce deuxième titre ici est très spécial. Je vais probablement le fêter avec une limonade. Redevenir numéro un mondial, pour moi, c'est génial. Quand on atteint les objectifs qu'on s'est fixés en début d'année, c'est incroyable. C'était l'un de mes premiers objectifs de la saison, essayer de reconquérir la première place le plus vite possible ou terminer l'année en tant que numéro un. Y parvenir une nouvelle fois, c'est un rêve. Et le faire, le jour même où je remporte un autre grand chelem, est encore plus gratifiant. C'est tout ce pour quoi je travaille et je suis vraiment heureux de pouvoir vivre ces expériences.
Voilà, donc Carlos Alcaraz, une vraie domination de ces deux-là entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. Eh bien, ils auront gagné tous les grands chelems de cette saison. C'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
Vous écoutez le programme en français. Et comme chaque mardi, on passe maintenant au journal de la semaine politique. Vous êtes en compagnie de Christophe Mallet et de Patricia Meunier.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Et c'est l'heure de parler politique à l'antenne de SBS Radio, SBS French. Et direction la Nouvelle-Galles du Sud qui suspend son projet de réduction des filets anti-requins après l'attaque mortelle sur un surfeur à Sydney. À l'heure actuelle, on compte quelque 51 filets anti-requins sur les plages de cet état, entre Newcastle et Wollongong. Certaines municipalités souhaitent leur retrait. Des explications de Patricia Meunier.
Une attaque mortelle de requins sur la plage de Long Reef, au nord de Sydney, a relancé le débat sur le programme de protection contre les requins en Nouvelle-Galles du Sud. À l'heure actuelle, on compte quelque 51 filets anti-requins sur la plage de cet état, entre Newcastle et Wollongong. L'attaque fatale s'est déroulée samedi dernier à Sydney sur les Northern Beaches en matinée. Mercury Psilakis était en train de surfer à Long Reef lorsqu'il a été attaqué par ce qui a été décrit comme un grand requin de plus de 3 mètres de long. L'attaque a été brutale, l'homme de 57 ans qui était un surfeur très expérimenté n'a eu aucune chance. Son surf a été brisé en deux. Il s'agit du 4e incident mortel impliquant un requin dans les eaux australiennes cette année et le premier en Nouvelle-Galles du Sud. Le chef de la police de cet état, John Duncan, a déclaré que l'incident s'était produit à environ 100 mètres du rivage.
Attempts to save his life were unsuccessful. And we understand he leaves behind a wife and a young daughter. That's a terrible, terrible thing. And it's one of those freak incidents that happens very, very rarely. Obviously, there's a lot of people down at the beach at the time. It's a beautiful day here at DY. It's a great tragedy.
Les plages ont été fermées immédiatement depuis Manly jusqu'à Narrabeen. Très vite, des drones ont été lancés pour tenter d'enregistrer les activités en lien avec des requins dans la région. On écoute encore John Duncan.
So we had a number of police boats for life saving. There's a number of jet skis. They're out looking for obviously the shark to make sure that obviously we can find it. Obviously, we pass that information on to the Department of Primary Industries, who will be the key agency in terms of obviously locating the shark, then working out what to do next. A number of the beaches have been shut.
Rod McGibbon, président du Surf Life Saving Sydney pour la région, a précisé que l'incident s'était produit dans une partie non surveillée de la plage.
We didn't have volunteers there. Some surfers brought the victim back to the beach. And then our call-out teams were then engaged through drones and through jet skis and other on-water assets as part of that follow-up activity.
L'incident s'est produit une semaine seulement après l'installation annuelle de filets anti-requins en Nouvelle-Galles du Sud. Un type controversé de filets à mailles conçu pour réduire les attaques en tuant les animaux. Les militants anti-filets ainsi que certains députés locaux et régionaux réclament leur retrait depuis plus d'un an. Suite à l'attaque de samedi, le gouvernement de l'État a suspendu son projet de retrait expérimental des filets sur 3 des plages. La plage de Long Reef n'était pas équipée de filets anti-requins contrairement à la plage voisine de DY. Pour mémoire, les filets anti-requins ont été développés dans les années 30 par le ministère des Pêches de la Nouvelle-Galles du Sud. Ils sont en service depuis, mais ces dernières années, seulement une partie de l'année. Ce programme coûte environ 21 millions de dollars par an aux contribuables. Suite au drame de samedi, des lignes de pêche supplémentaires sont en cours d'installation entre les plages de DY et de Long Reef. Cette technologie permet d'intercepter les requins et de les marquer. Ancrées sur les fonds marins, les lignes de pêche se composent de 2 dispositifs flottants, des bouées et d'un dispositif de communication de type GPS par satellite fixé à un hameçon. Les données manquent encore pour déterminer l'efficacité des lignes de pêche par rapport aux filets anti-requins. Pour l'heure, les experts affirment que les morsures de requins, notamment mortelles, sont rares en Australie. On compte quelque 20 personnes blessées et 3 tuées par des requins au cours des 10 dernières années. Cela reste inférieur au nombre de décès annuels par noyade.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Vous écoutez le programme en français. Et maintenant, on passe à une édition spéciale de Europa Voice pour parler de la chute du gouvernement de François Bayrou. Et vous êtes en compagnie de Christophe Mallet et de Nathanaël Bloch.
Europa Voice numéro 167. Et comme à l'accoutumée, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
On l'a préparé, hein, cette Europa Voice. On savait que ça pouvait arriver rapidement. Le gouvernement Bayrou a été renversé. Ce sera le sujet principal de cette Europa Voice, première et deuxième partie. Donc, sur ce qui vient de se passer, ça s'est passé juste au moment où on enregistre. Ça s'est passé il y a juste quelques heures en France. Une motion de censure qui a été donc acceptée. Le gouvernement de Bayrou et Bayrou lui-même n'est plus Premier ministre.
Effectivement, Christophe, sur les 573 députés qui ont été amenés à voter, une très large majorité, puisqu'on parle de 364, ont voté contre la confiance du gouvernement. Parce que ce qui se passait, c'est que François Bayrou demandait à l'Assemblée la confiance pour pouvoir mettre en œuvre son programme d'économie budgétaire. Hein, c'est plus de 40... milliards d'économies. Il avait besoin de cette confiance-là et de loin, de très loin, mais d'ailleurs comme on en avait parlé dans notre précédent épisode d'Europa Voice, il n'a pas obtenu cette confiance de l'Assemblée nationale.
Alors ce qui est intéressant, et si on peut en parler juste en détaillant un petit peu, c'est vrai qu'il y avait énormément d'économies dans ce budget. C'était un budget, on va dire, presque de rigueur, hein, en tout cas. Remboursement de la dette, enfin, il y avait énormément d'économies demandées aux Français, peut-être deux jours fériés à être travaillés à la place de rester chez soi et de faire le pont, enfin, etc. Énormément. Par contre, il y a aussi du côté du parlementaire, que je pense beaucoup au Rassemblement national, qui n'arrête pas de parler de la dette, de la dette, de la dette, de la dette, beaucoup trop haute. Mais ils n'ont pas soutenu le gouvernement, en tout cas le gouvernement de Bayrou, dans un exercice pour essayer de résoudre ce problème de la dette.
Alors, à la décharge, j'allais dire, de François Bayrou, il y a deux éléments qu'il faut discuter. Le premier, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu un budget à l'équilibre en France depuis les années 70, depuis 74, je crois.
Ouais, 76, je crois. C'était la première fois que Raymond Barre a passé, la première fois qu'il y a eu la dette, un budget déficitaire.
Voilà.
Raymond
Barre. Donc ça fait 50 ans. Ça fait quasiment 50
oui,
ans
voilà.
qu'il n'y a pas eu de budget à l'équilibre. Donc, François Bayrou n'est pas le premier à faire ce constat et n'est pas le premier à vouloir y remédier. La deuxième chose à la décharge de François Bayrou, c'est que cette thématique de l'équilibre budgétaire, cette thématique du déficit de la dette, pour le coup, ça a été un sujet sur lequel il s'est engagé depuis ses premiers pas en politique. Ça a été un de ses chevaux de bataille. Et donc, je pense que de manière, encore une fois, foncièrement honnête, François Bayrou voulait bien faire les choses en présentant ses économies pour l'année suivante. Le problème, Christophe, c'est qu'il le fait dans peut-être le plus mauvais contexte politique qu'il soit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Il est à la fois tiraillé, non pas par une opposition, mais par plusieurs oppositions, à l'extrême gauche, à la gauche et à l'extrême droite. Et puis surtout, il y a un simulacre, j'allais dire, de groupes homogènes au centre. C'est-à-dire qu'il y a une partie des Républicains qui sont objectivement des alliés, une autre partie qui sont objectivement des ennemis. Et d'ailleurs, ça s'est retrouvé, c'est ça qui est intéressant, dans le vote, parce que les Républicains ont été, à la demande d'ailleurs de Laurent Wauquiez, le seul groupe politique sans consigne de vote partagé entre voter ou pas cette confiance au gouvernement Bayrou. Donc en fait, François Bayrou, encore une fois, il est sur un constat qui n'est pas le sien, qui est un constat français depuis 50 ans. Il est sur un positionnement, sur une thématique qui est la sienne, sur laquelle il a des choses à dire, sur laquelle il a dit des choses depuis 30 ans qu'il est dans le paysage politique. Mais par contre, il n'a pas les bons instruments, les bons ustensiles de cuisine pour le faire. Et c'est ce qui explique non-confiance, mais ce tollé. Parce que là, on est dans des chiffres qui même, nous, je crois, Europa Voice, vont au-delà de ce qu'on attendait en termes de vote de non-confiance au gouvernement Bayrou.
Je pense que ça nous a surpris. Enfin, en tout cas, moi, au réveil ce matin, ça m'a surpris de voir le chiffre, à quel point il était élevé. Je fais appel simplement aux communicants que vous êtes. Est-ce qu'il y a eu un défaut de forme plutôt que de fond? Okay, il y a un défaut de fond qui n'a pas plu aux députés donc de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut critiquer la forme aussi de ce qui s'est passé sur le gouvernement Bayrou depuis le début, mais sur ce dernier mois et demi?
Il y a définitivement, Christophe, des maladresses au niveau de la forme. Hein. On en a parlé, hein, le bureau de François Bayrou, l'épisode de son bureau cet été, ce vote de confiance qui est demandé aussi dans un contexte politique où dans maintenant moins d'un jour, on va avoir cette espèce de journée noire en France, enfin, cette journée de paralysie, d'arrêt total, de manifestation à l'échelle nationale. Donc le timing lui-même est très surprenant. Donc je crois que c'est effectivement plus un défaut de forme qu'un défaut de fond. Mais j'aimerais quand même revenir sur le fond et sur ces économies budgétaires, parce qu'il y a aussi des choses, si vous voulez, qu'on peut faire passer quand le climat politique est plutôt favorable et qu'il est difficile de faire passer quand le climat ne l'est pas. Je vais prendre deux exemples. D'abord, l'année blanche, l'année fiscale blanche, l'année prochaine, et les coupes budgétaires dans les domaines de l'éducation et de la santé et de la fonction publique. C'est un sujet qui est éminemment politique. Il a raison, hein, François Bayrou, de vouloir mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, mais dans le climat actuel où il a une opposition forte, notamment de la part de la gauche et de LFI, du Nouveau Front Populaire, toucher à la fonction publique, toucher à l'éducation, à la santé, il sait qu'il va y avoir un retour de bâton. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, sur les jours fériés. Alors, effectivement, ça fait des économies, mais il y a un précédent. Il y a déjà un précédent sous le gouvernement Raffarin.
Avec la Pentecôte.
Avec la Pentecôte. On a vu que ça ne s'est pas spécialement, bien, ça n'a pas été spécialement bien accepté, ça n'est pas spécialement respecté. Et finalement, on est venu d'une proposition qui était, j'allais dire, un peu une obligation à vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez le travailler ou pas, mais l'argent de cette journée de travail va aller. Donc, pareil, sur le fond, il a peut-être raison, mais il sait très bien que dans le climat actuel, supprimer ces deux jours fériés, et en plus, il met la main un peu dans tous les pots, parce qu'il supprime à la fois un jour férié religieux, je crois que c'est le lundi de Pâques, et il supprime à la fois une journée extrêmement symbolique, qui est le 8 mai, donc la victoire des Alliés. Donc il sait très bien, et là, je parlais de l'extrême gauche, mais il sait très bien que du côté de l'extrême droite, ils vont encore pouvoir déployer tout ce narratif de non-fierté française, etc.
Ouais,
du patriotisme. Et donc, je crois que sur le fond de ces économies, où il a foncièrement raison, il y a des maladresses. Il y avait peut-être une autre manière de les envelopper pour faire passer un message. Ça ne veut pas dire qu'il aurait eu cette confiance, mais de le faire passer d'une manière un peu plus, subtile. Et puis, le dernier élément...
Un peu plus crème, on peut dire ça.
Un peu, voilà, que ça passe un peu plus crème. Et puis, le dernier élément, les groupes parlementaires, certains des groupes parlementaires n'ont même pas daigné venir à Matignon pour être consultés. Ont déjà dit qu'ils voteraient non. Donc, de toute façon, c'était perdu d'avance. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'ils pouvaient faire quelque chose une fois qu'il a eu la fin de non-recevoir d'une consultation? Ça aurait été difficile de faire marche arrière. Mais je veux dire, si déjà avant le vote, vos partenaires refusent de venir discuter avec vous, ben, vous savez que c'est très mal... Ça démarre très mal, en tout cas, pour le vote de confiance.
Absolument. Est-ce qu'il aurait pu imposer un 49-3 pour poser son... Est-ce que c'était l'autre possibilité d'y aller au forceps?
Non. Clairement, il n'y avait pas la place pour un 49-3. Et puis d'ailleurs,
La suite, il y aurait eu une motion de censure, voilà, même résultat.
Non, c'est tout simplement impossible. Et puis, encore une fois, dans la démarche, si vous n'êtes pas capable d'obtenir... Le 49-3, il marche, si vous voulez, et on ne va pas rentrer dans le droit constitutionnel, dans l'esprit de la 5e, etc. Mais le 49-3, il marche quand on est dans une situation de blocage sur des textes très précis, sur des points, mais sur lesquels on va pouvoir passer outre. Quelques jours après, sur un projet, alors que ce soit un projet, là je voulais parler d'un projet de la finance, mais même sur un vote budgétaire, sur des économies aussi importantes que ça, de toute façon, vous ne pouvez pas, dans l'esprit de la 5e République, on ne peut pas passer par un 49-3, c'est impossible. D'ailleurs, il a raison, hein, François Bayrou, c'est tellement important les économies qu'il voulait mettre en place, son projet, il est tellement important qu'il devait de toute façon avoir. Les députés avec lui, parce que ça ne s'arrête pas seulement à ce projet de loi-là, puisqu'après chaque projet, il va être étayé, discuté, etc. Donc, il doit être sûr aussi qu'une fois que l'esprit de la lettre passe en termes de ces économies autour du budget, de cette réduction de la dette et du déficit, il doit être sûr que, point par point, il n'y aura pas de blocage. Alors, si déjà là, il sait que l'esprit lui-même ne passe pas, c'est impossible d'aller plus loin. Donc, pour répondre à la question, non, 49-3 n'était pas envisageable et n'est pas envisageable pour cette situation-là.
Et bientôt 52 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Et on passe maintenant à la série Australia Explained. Et on vous propose ce reportage sur les droits fonciers des aborigènes en Australie. Et vous êtes en compagnie de Bertrand Tungandamé.
Vous avez peut-être entendu le slogan « Que voulons-nous ?» des droits fonciers. Mais quelle est la profondeur de ce slogan? Bien, la terre est au cœur de l'identité, de la culture et du bien-être des peuples aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit de Torres. connue sous le nom de country. Elle englobe les terres, les cours d'eau, le ciel et tous les êtres vivants. Dans cet épisode d'Australia Explained, nous explorons les droits fonciers autochtones. De quoi s'agit-il? Quelles terres sont concernées? Qui peut en faire la demande? Et quel est leur impact sur les communautés des Premières Nations? Pendant des années, le lien des peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres avec leurs terres n'était pas reconnu. Plus récemment, des lois sur les droits fonciers ont été créées pour leur donner un contrôle légal sur leurs terres traditionnelles. Avant la colonisation, ces peuples vivaient et prenaient soin de leurs terres depuis des dizaines de milliers d'années. Mais la colonisation a pris des terres sans accord en s'appuyant sur l'idée fausse des terra nullius, c'est-à-dire terres n'appartenant à personne. Le mouvement pour les droits fonciers a pris de l'ampleur en 1966 avec la grève de Wave Hill. Ensuite, en 1967, un référendum national a permis au gouvernement de légiférer pour les autochtones et de les inclure enfin dans le recensement national. En 1976, la loi sur les droits fonciers aborigènes dans le territoire du Nord a été adoptée. Ce territoire fut le premier à reconnaître les revendications foncières traditionnelles. Et si certains États disposent de leurs propres lois sur les droits fonciers des peuples premiers, il n'y a pas d'équivalent au niveau fédéral. Dans les différents États, des conseils fonciers ont été mis en place pour représenter les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres et gérer les terres qui leur ont été restituées. Il faut préciser que les droits fonciers concernent uniquement les terres publiques, les terres domaniales, mais jamais les propriétés privées. Ces terres ne peuvent être ni vendues ni hypothéquées. Elles sont détenues en fiducie pour que les Premières Nations puissent en prendre soin et décider de leur avenir. En évoquant la prise de décision de la Première Nation, la docteure Virginia Marshall, femme Wiradjuri Nyemba et experte en droit de l'eau, explique la profonde signification de ce lien avec la terre et l'eau.
The water speaks to us, or the trees speak to us, but we don't need to take on a Western environmental ideology and dialogue that isn't based in our understanding and our law and our understanding of our creation stories.
Pour clarifier, droits fonciers, titres natifs et traités sont souvent évoqués ensemble, mais ils représentent des réalités différentes. Les droits fonciers sont des lois qui permettent aux communautés aborigènes et les insulaires du détroit de Torres de récupérer certaines terres, généralement gérées par des conseils fonciers pour soutenir ces communautés. Le titre natif lui reconnaît que certains peuples ont encore des droits sur leurs terres et eaux selon leurs lois et coutumes traditionnelles, perpétuées depuis des millénaires. Et enfin, le traité est un accord formel entre un gouvernement et les Premières Nations. Des traités avec les Premières Nations sont déjà en vigueur en Nouvelle-Zélande et au Canada, mais toujours en projet en Australie. Ces accords visent à apporter justice, reconnaissance et un changement réel. Le retour des terres permet aux communautés de retrouver leur langue, leur culture et leur country et contribue à l'habitat, à la santé et à l'indépendance économique. La docteure Marshall explique.
Need to be self-determining, whether it's leading a committee, leading research, leading new ideas, forging new opportunities and partnerships in technology, and also health.
L'impact réel des droits fonciers est profond. Le conseil foncier local aborigène Darkinjung, fondé grâce à la loi sur les droits fonciers aborigènes de Nouvelle-Galles du Sud, est un exemple pertinent. Oncle Barry Duncan, homme Gameroy, fait partie des fondateurs de Darkinjung, créé dans l'arrière-cour de ses parents en
1983.
Au fil des années, Oncle Barry a vu comment les droits fonciers ont contribué à renforcer l'autonomie et le pouvoir économique de sa communauté de la Central Coast. Il explique.
I think the future now is that when the original land rights got handed down, there's a lot of talk from non-Aboriginal people about how we're going to take their backyards, claim really stuff that was said that about us that
was a lot of detriment. But now people know that I think in this generation that we are very wise and smart with land holdings.
Il est essentiel de comprendre que le fait d'accorder des droits fonciers aux Premières Nations ne se traduit pas par une perte des maisons ou des biens fonciers par les non-autochtones. Les droits fonciers des Premières Nations ne s'appliquent qu'à des terres publiques spécifiques, pas aux propriétés privées. Il sied de préciser qu'il s'agit de rendre des terres aux communautés autochtones qui ont un attachement reconnu, souvent historique ou culturel. Les défis demeurent avec un processus parfois lent et complexe, ainsi que des terres limitées. Les droits fonciers sont liés à la justice, à la réconciliation et à la reconnaissance de la souveraineté autochtone. Pour ceux qui découvrent l'Australie, comprendre les droits fonciers est une manière de mieux saisir l'histoire profonde du pays. Il ne s'agit pas de perdre la terre, mais de reconnaître et de restaurer un lien unique qui unit les Premières Nations à leur terre depuis plus de 60 000 ans. Cet épisode d'Australia Explained a été réalisé par Nikaya Hutching. Je m'appelle Bertrand Tungandami.
Et en fin d'émission, un rappel des titres du journal de ce mardi. En France, l'Assemblée nationale n'a pas accordé sa confiance au gouvernement de François Bayrou avec 364 voix contre et 194 voix pour. Le Premier ministre français doit donc démissionner, ce qu'il fera ce mardi. Le ministre israélien des Affaires étrangères a annoncé hier la mort d'au moins 6 personnes dans une attaque à l'arme à feu à Jérusalem-Est. Les Nations Unies demandent l'ouverture d'une enquête après la mort de 17 personnes lors de manifestations contre la décision gouvernementale de bloquer l'accès aux réseaux sociaux au Népal. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous jeudi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Bel après-midi. À bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur Facebook.com/SBS French.